Eh bien, ce matin, comme j'expliquais, on commence non seulement une nouvelle série de discours. Norma l'avait comme introduite la semaine passée, dimanche passé, mais aussi une campagne d'église, un 21 jours de prière et de jeûne qu'on appelle Libération 21. Puis j'aurais voulu vous montrer le clip d'un film de Braveheart avec Mel Gibson. Malheureusement, les droits d'auteur font en sorte que c'est plus compliqué que simple de faire ce genre de choses-là, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film-là, Braveheart, qui parle de la libération ou au moins le désir des Écossais de se libérer de ce qu'ils perçoivent comme la tyrannie des Anglais sur leur pays. Ils veulent avoir leur indépendance face à l'Angleterre. Et il y a des guerres qui sont menées. Un film quand même assez violent, sanglant, mais à la toute fin, lorsque l'acteur principal, Mel Gibson, qui joue le rôle de William Wallace, est capturé, il est mis à mort et il est placé sur comme une genre de table d'exécution. Puis il y a comme un des chefs ou des procureurs, je sais pas, lui explique que s'il veut se sauver de l'exécution, il peut dire le mot pitié. Il dit, t'as juste à dire pitié. Demander notre pitié, dire que tu t'es excusé, dire que tu t'excuses, dire que tu voulais pas, puis demander notre pitié, puis on va te la donner. Puis à un moment donné, toute la foule autour de lui commence à crier pitié, 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 en voulant dire, tu sais, exécutez-les pas, laissez-le demander pitié, puis l'encourager lui-même à dire pitié. Puis avec toute l'énergie qui lui reste dans son corps, je sais pas si vous pouvez vous imaginer la scène si vous l'avez déjà vue. Sinon, je sais que c'est pas super représentatif, là. Il y a des gros dreads, c'est un gros gars. Mais il est presque mort. Puis l'énergie qui lui reste ne lui sert qu'à crier de toutes ses forces le mot « liberté ». Puis à ce moment-là, on donne signe au bourreau, puis on lui tranche la tête parce qu'il ne voulait pas se soumettre. Puis moi, je trouve que quand on parle de Libération 21, de liberté, j'ai souvent des films de ce genre-là, comme le film de Braveheart, qui me viennent en tête. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous. Un peuple en tyrannise un autre, le soumet par la force, le contrôle. Et le peuple qui est soumis cherche à se libérer de ça, à poursuivre sa libération. On parle à ce moment-là d'une liberté politique ou nationale. Puis il y a plein d'autres éléments comme ça dans notre culture dans lesquels on trouve le thème de la liberté et de la libération. Par exemple, est-ce que vous connaissez le FLQ? Le Front de libération du Québec. Un mouvement révolutionnaire qui prônait l'indépendance du Québec, puis qui est à l'origine, pour certains membres, pas tous ont participé, mais certains membres ont fait même des actes terroristes. On pense à la crise d'octobre de 1970. Ils réclamaient une insurrection socialiste. Ils voulaient renverser le gouvernement. Ils voulaient poursuivre l'émancipation du Québec face au Canada. Ils voyaient le Québec comme soumis au Canada, l'établissement d'une société de travailleurs, etc. C'est pas la première fois dans l'histoire du monde où on voit ce genre de groupe-là, avec ce genre d'aspiration-là. On peut penser au slogan de la Révolution française, qui est devenu aussi le slogan du pays, de la France éventuellement, de la République. Liberté, égalité et fraternité. La Révolution française elle-même a été portée, nous disent les historiens, par le credo « sans foi ni loi », par lequel on a cherché, non une libération politique, mais une liberté religieuse, une liberté de la tyrannie de la religion, de la monarchie, de la religion, pour faire place, entre autres, à la raison humaine, où on voulait avoir le règne de la raison humaine, en quelque sorte. C'est un peu philosophique. Pensez aux paroles de la chanson « Gitan » de Garou. J'ai pensé vous la chanter, mais je vais vous faire grâce. J'ai pas non plus sa voix, mais le premier couplet dit « Gitan, je rêvais enfant de vivre libre comme un gitan ». Et dans le refrain, on lit « Vive ma vie comme un gitan, vive ma vie comme je l'entends, avoir la liberté pour drapeau, sans foi ni loi pour credo ». On parle ici de liberté dans le sens de n'avoir aucune contrainte. Il va y avoir personne qui va me dire quoi faire. Et pour ceux qui sont pas la génération Garou, j'ai pensé aussi prendre un exemple avec le chant de Frank Sinatra, « I did it my way », pour comme l'autre génération peut-être, là, je sais pas. « Tout n'a pas été parfait », il dit dans son chant, « mais au moins je l'ai fait à ma manière ». personne n'a décidé pour moi ou ne m'a forcé à faire quelque chose contre ma volonté. La liberté, je l'ai faite à ma manière. La liberté aujourd'hui semble être sur toutes les lèvres et à toutes les sauces, n'est-ce pas? On parle de libération politique, financière, des dettes, par exemple, libération émotionnelle et relationnelle, la liberté de la femme ou l'égalité des sexes, la liberté au niveau des sexes, la liberté sexuelle aussi. On fait du mot « liberté », il me semble, et du concept de libération, un amalgame de plein de choses, sans vraiment définir exactement de quoi on parle quand on parle de liberté ou de libération. Mais je trouve ça quand même intéressant de voir que ce concept-là est vraiment central aux préoccupations humaines. Les êtres humains, c'est quelque chose qui les préoccupe beaucoup, le sujet de la liberté. Ils en ont besoin et ils en sont aussi en manque. Dès qu'on sent que quelqu'un ou quelque chose va nous asservir, on réagit fortement contre ça et on réclame notre liberté. Même les chartes de droits et libertés qui ont été établies au Canada, au Québec, protègent les droits et libertés qu'on pense que tout être humain devrait avoir. Pour nous, c'est des non négociables. Les Nations unies disent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. La plus haute aspiration de l'homme, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est d'avoir ce genre de monde-là. C'est central à nos aspirations humaines. Et donc, ce matin, on commence Libération 21. Puis, comme je disais, pas juste une série de discours qu'on débute, mais aussi une campagne de jeûne et de prière où on va demander à Dieu des choses bien précises dans la prière. On fait pas ça juste pour être à la mode, pour faire comme tout le monde. On fait pas ça parce qu'on n'a rien à faire pendant l'hiver puis on n'ose pas sortir dehors. On fait pas ça parce que le mois de février cette année aura 29 jours puis que ça va pas se reproduire avant 2020. C'est spécial. Sauf que c'est pas pour ça qu'on fait Libération 21. Non, on commence Libération 21 en Église aujourd'hui parce qu'on est convaincu que notre besoin de liberté est réel et que notre désir de liberté et de libération est légitime, mais qu'il est trop souvent mal placé et pas assez puissant ou assez fort comme désir. On se contente souvent de trop peu de liberté. En effet, la Bible, qui est la parole de Dieu, nous ici à l'Église de Sentier, on croit que c'est l'autorité dans nos vies, que c'est la vérité et l'autorité sur nos vies. La Bible nous dit que Dieu nous a créés des êtres libres de le louer et de le glorifier. Des êtres libres de vivre nos vies centrées sur lui pour notre plus grand bonheur et pour sa plus grande gloire à lui. Mais le problème, comme une grande quantité de personnes ici le savent, parce qu'ils connaissent la Bible, les Écritures, le problème, c'est que nous, les êtres humains, on a choisi l'indépendance envers Dieu au lieu de la liberté pour laquelle il nous a créés, n'est-ce pas? On a alors perdu cette liberté et on est devenu des esclaves, la Bible nous dit. Depuis ce moment-là, l'esclavage, sous toutes ses formes, se multiplie sur la terre et c'est vraiment pas difficile de s'en rendre compte autour de nous que l'esclavage est présent. Même les non-chrétiens le soulignent dans les films, les chansons, les articles, les dissertations, l'humour, les bulletins de nouvelles. Si on pouvait décrire la situation dans laquelle on est par rapport à la liberté aujourd'hui, j'aimerais dire qu'on soupire après la liberté et que c'est un écho universel d'une symphonie qu'on a déjà entendue, mais dont on a oublié la beauté. Comme quelque chose qui était dans notre passé, qui a fait partie de notre vie en quelque part, dans notre parcours humain, qu'on a trouvé beau, mais qu'on a oublié. Aujourd'hui, notre poursuite de la libération sous toutes ses formes est au final la poursuite de quelque chose de merveilleux qu'on a déjà eu, mais qu'on a perdu, et pour laquelle il nous reste qu'un vague souvenir. Et si on l'a oublié, c'est aussi, la Bible dit, de notre faute. On en est coupable. Le problème aujourd'hui, c'est pas qu'on recherche la liberté comme à tout prix, c'est comme une obsession pour nous. C'est pas nécessairement là où se trouve le problème, selon moi. Non, Dieu nous a créés des êtres libres. Dieu nous a créés pour qu'on soit libres et qu'on vive la liberté. Mais le problème est plutôt qu'on ne comprend pas toujours la nature de la liberté à laquelle Dieu nous appelle. Et aussi, on ne comprend pas toujours la nature de l'esclavage auquel on est soumis aujourd'hui. C'est là qu'est le problème. Et le problème est plus complexe que ça, parce que ce n'est pas juste qu'on ne comprend pas quelle est la liberté que Dieu veut qu'on vive et quel est l'esclavage auquel on est soumis aujourd'hui, mais le problème est que souvent on cherche notre liberté au mauvais endroit, qu'on la cherche auprès de la mauvaise personne et bien souvent de la mauvaise manière. Donc, on a beau atteindre la liberté financière, la liberté des sexes ou la liberté du sexe, ou même la liberté politique, ou la liberté face à nos émotions, la liberté face à la jalousie, à nos relations brisées, et ainsi de suite, à la haine. On peut atteindre toutes ces différentes sortes de libertés-là. Mais ça peut être toutes de bonnes choses à poursuivre. Puis probablement que, oui, je serais d'accord de dire, on doit poursuivre toutes ces choses-là, ces sortes de libertés-là. Mais des questions se posent. Parce que malgré qu'on poursuit ces libertés puis qu'on les atteigne, un problème demeure, c'est qu'il nous semble qu'on reste toujours esclave de quelque chose. L'apôtre Pierre dit dans l'épître, la deuxième épître de Pierre au chapitre 2, verset 19, que chacun est esclave de ce qu'il a dominé ou de ce qui a triomphé sur lui. Et il me semble que beaucoup de personnes ici au Québec, partout dans le monde même, ne se rendent pas compte de ce qui a triomphé sur eux, de ce qui est en train de dominer leur vie. Ils ont les yeux comme fermés sur cette réalité-là. Donc, des questions se posent. Premièrement, de quoi as-tu le plus besoin d'être libéré? Est-ce que c'est des dettes, des inégalités entre les hommes et les femmes, des libéraux? Ça, c'était plus une plug, là. Libérez-nous des libéraux. Vous savez, vous connaissez les loco-locas? De quoi as-tu le plus besoin d'être libéré? D'un tyran au travail? D'un intimidateur? D'un mari dominant ou une femme manipulatrice? D'un parent sur ton dos? En passant, ça peut être la femme dominante puis le mari manipulateur aussi, OK? Faut pas penser que c'est juste les seules catégories qui existent. De quoi as-tu le plus besoin d'être libéré? De devoir te prouver à ceux qui t'entourent, prouver ta valeur et ta dignité? Deuxièmement, comment pourras-tu être libéré de ce qui te garde vraiment esclave? Fait que non seulement c'est de quoi tu as le plus besoin d'être libéré, mais comment tu vas être capable d'en être libéré? Penses-tu que ça va être par toi-même en essayant de suivre toutes les règles comme d'une manière un peu religieuse? Ou est-ce que tu penses que ça va être avec tes propres forces, à l'inverse, en essayant de briser toutes les règles? Hein, des gens de toutes sortes essayent les deux manières. Soit on va essayer de suivre toutes les règles, puis on va reconnaître mon mérite, puis on va me donner ce que je mérite, ou sinon, on va tout foutre en l'air, puis on va briser toutes les règles, puis on va faire notre propre chemin. Ou y a-t-il un autre moyen d'être libéré? Évidemment, on croit ici à l'Église de Sentier que la Bible nous enseigne qu'il y a justement un autre moyen d'être libéré. Ce n'est ni par la religion, ni par l'irreligion ou le rejet de la religion, c'est un autre moyen carrément différent. Puis c'est ce qu'on va découvrir dans un passage qu'on veut examiner ensemble dans l'Épître aux Romains ce matin. Dans la lettre de Paul aux Romains, c'est intéressant parce que Paul, une des raisons, pas nécessairement la seule, mais une des raisons pourquoi il écrit une lettre à des chrétiens qui sont dans la ville de Rome, c'est parce que il y avait un manque d'unité dans l'Église. Il semble que les Juifs et les non-Juifs formaient comme deux groupes qui ne s'entendaient pas beaucoup puis qu'il y avait une rivalité entre ces deux-là dans l'Église de Rome. Ces deux groupes-là et cette Église avaient besoin d'être libérés, entre autres, de la rivalité. Mais l'apôtre Paul écrit pour leur dire que ni un groupe ni l'autre ne pourra se défaire par ses propres efforts de l'esclavage auquel tous les hommes sont soumis. Car c'est seulement dans l'Évangile, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, que la solution ultime peut se trouver pour la libération de tous les êtres humains. On va voir ce matin que tous les hommes sont asservis par un esclavage dont personne ne peut se libérer soi-même. On va voir aussi que notre seul espoir se trouve dans la libération que Dieu a choisi d'accomplir à notre égard et par amour pour nous. Et on va voir finalement que cette libération n'est seulement que le coup d'envoi. La libération que Dieu a accomplie n'est seulement que le coup d'envoi d'un long processus de libération qui a déjà inauguré mais pas encore complètement accompli. Dieu est en train de poursuivre un processus de libération. Tout n'est pas encore terminé, mais il y a un bon coup de départ qui a été donné. Toute libération, donc, implique, si on y pense un peu, quatre éléments que j'ai pu discerner qui font partie du concept de la libération en général. Premièrement, ça prend un esclavage. Un esclavage quelconque envers quelqu'un, c'est-à-dire un esclavagiste, ou envers quelque chose. Pour qu'il y ait une libération quelconque, il faut qu'il y ait un esclavage duquel on peut être libéré, n'est-ce pas? C'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que ça prend un esclave. Il n'y aurait pas d'esclavage sans esclave. Et donc, ça prend une personne qui est soumise à cet esclavage-là, deuxièmement. Un esclavage ou un esclavagiste, un esclave, et ça prend, troisièmement, un libérateur. Pour qu'il y ait libération, ça prend quelqu'un ou quelque chose qui vienne nous libérer, qui vienne sortir l'esclave de son esclavage. Et quatrièmement, toute libération implique non seulement un esclavage, un esclave, un libérateur, mais aussi une libération, c'est-à-dire un moyen d'être libéré. Dans le cas de l'être humain, la Bible enseigne que tous les êtres humains sont esclaves du péché. Pour mettre les points sur les i sur ce que la Bible enseigne au niveau de la libération, On peut lire des articles de journaux, on peut regarder des films, on peut écouter des chansons, mais ce que la Bible dit, c'est que tous les êtres humains, universellement, sont esclaves du péché et ont besoin d'être libérés de cet esclavage-là. Peut-être vous réagissez à une affirmation comme celle-là. Si vous n'êtes pas chrétien ou si vous êtes chrétien depuis pas longtemps, vous vous dites, tous les êtres humains sont esclaves. Tu es en train de dire que moi, je suis esclave du péché, que moi, Je suis un esclave tout court, puis en plus du péché. Certains vont penser que c'est vraiment arriéré de parler de péché en 2016 aujourd'hui, ou même d'esclavage. Ils vont dire, voyons, l'esclavage au péché, ça fait aucun sens. Est-ce que c'est vraiment vrai? Je fais pas tant de mal que ça, je pêche pas tant que ça. C'est pas comme si je suis obligé de pécher. C'est pas comme si quelqu'un me force à pécher ou quelque chose me force à pécher. Voyons donc. Mais comme on le dit, dans 2 Pierre 2,19, l'apôtre Pierre dit que chacun est esclave de ce qu'il a dominé ou de ce qui a triomphé de lui. Puis quand on regarde autour de nous, puis si on fait juste regarder nos propres vies, ça ne prend pas de temps, il me semble, pour moi, de voir à quel point beaucoup de choses triomphent sur moi dans ma vie. Ça peut être l'impatience, ça peut être plein d'autres éléments de mon caractère, ça peut être ma paresse ou ainsi de suite. Et j'ai peine à avoir la victoire des fois sur beaucoup d'éléments dans ma vie. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de triompher sur moi. Dans Jean chapitre 8, verset 34, Jésus dit même aux Juifs qui ne se voyaient eux-mêmes pas des esclaves de personne. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Et la question, c'est, bien, est-ce que nous, les êtres humains, on commet le péché ou est-ce qu'on ne le commet pas? Et ici, pour répondre à cette question-là, il faut comprendre vraiment ce qu'on veut dire par le mot « péché ». C'est un mot qui n'est pas très populaire. Puis quand on en parle, souvent, on n'en a pas une bonne compréhension ou une compréhension qui est trop biblique de ce mot-là. Aujourd'hui, « péché », souvent, on va le réduire à « commettre des mauvaises actions ». Ou ne pas commettre des bonnes actions qu'on aurait dû pour protéger quelqu'un. Puis là, on pêche. On a tendance à réduire le péché aux choses qu'on dit, aux choses qu'on fait, aux choses qu'on pense, aux mauvaises actions qu'on commet ou qu'on commet pas. Et même dans notre monde moderne, on a tendance à horizontaliser le péché. C'est un nouveau mot que je viens d'inventer. Horizontaliser. Je pense pas que ça existe en français. Mais c'est l'idée que t'as le vertical, c'est bien ça, le vertical? P- puis l'horizontale, hein, les stores verticaux, les stores horizontaux. C'est tout le temps comme ça que je m'en rappelle. Puis, notre monde moderne horizontalise le péché, n'en fait qu'une question qui touche les relations humaines ou qui touche la société. C'est quelque chose de négatif. Pourquoi de tuer quelqu'un? Bien, parce qu'on a tué quelqu'un, justement. On a fait du tort à notre prochain. Mais l'aspect vertical, c'est-à-dire, est-ce que le péché est quelque chose par rapport à une relation avec un Dieu qui est plus grand que nous, tout ça, ça, on l'élimine, on n'en parle pas, parce que probablement, on ne croit pas que ce genre de Dieu-là existe. Donc, on horizontalise le péché, puis on en parle seulement dans ses conséquences horizontales, ses conséquences humaines, ses conséquences sociales. Mais dans la Bible, on voit que le péché est premièrement une attitude de rébellion et d'indépendance envers Dieu. La Bible met en priorité, dans sa définition du péché, le fait que nous avons offensé le Dieu qui nous a créés. Puis c'est pour ça que c'est grave. C'est pour ça que c'est appelé un péché. Parce que la personne qui est la plus offensée dans tout le scénario, c'est le Dieu qui nous a créés pour qu'on le glorifie, puis pour qu'on l'aime, puis pour qu'on lui rende gloire. À cause de notre tendance moderne à horizontaliser le péché, puis d'en voir juste comme des conséquences sociales. Par exemple, on va pas vraiment être porté à reconnaître que la pratique de l'homosexualité est un péché. On va dire, par exemple, c'est juste deux êtres humains qui s'aiment. Ils font pas de mal à personne. Alors, pourquoi appeler ça péché? Alors, j'ai pris l'exemple de la pratique de l'homosexualité parce que c'est clairement quelque chose qui, dans notre monde, est présenté comme quelque chose qui fait aucun mal à la société. Il y a personne qui est maltraité, il y a personne qui est violenté là-dedans, il y a personne dont les droits ou les libertés sont bafoués. En fait, de pas les laisser s'aimer, ça serait bafouer leur liberté. Donc, tu vois, c'est juste deux personnes qui s'aiment. Ils font pas de mal à personne. C'est pas un péché, ça. Mais c'est ça qui arrive quand on horizontalise le péché, quand on ne regarde plus le péché comme la Bible nous le propose, dans sa dimension verticale, dans la relation qu'on a avec Dieu. Sans vouloir être prophète, je dirais que bientôt dans notre monde, on va commencer à dire la même chose qu'on dit à propos de l'homosexualité, la pratique de l'homosexualité, on va dire la même chose de la pratique de la pédophilie, dans laquelle des enfants disent être consentants. Justement, à Denis Lévesque, j'écoutais Denis Lévesque cette semaine, puis il passait en entrevue une mère avec un jeune homme de 18 ans qui, lui, est accusé de pédophilie envers une fille de 13 ans avec qui il fréquentait. C'était sa blonde. Les deux étaient consentants. Quand il avait 17 ans, c'était légal. Mais là, deux mois plus tard, il a eu 18 ans, c'est devenu illégal. Puis là, les policiers l'ont accusé de pédophilie. Puis, je suis pas prophète, comme je dis, mais j'ai comme l'impression que si notre seul critère de bien et de mal est le fait qu'on se fait pas du mal les uns aux autres, les êtres humains, qu'est-ce qui empêche qu'on va arriver dans notre société à un point de dire, mais c'est-tu quoi, la fille est consentante, le gars est consentant, ou l'inverse, le majeur est consentant, le mineur est consentant, fait que c'est correct, ça. En fait, il y a pas de raison pourquoi ça devrait pas aller là. Si notre seul critère de bien et de mal, c'est le fait qu'on ne se fait pas du mal les uns aux autres. La Bible va plus loin que ça. La Bible nous met en relation avec le Dieu créateur qui nous a créés pour un but précis, c'est de le glorifier. Et quoi que ce soit qu'on fait, qui va à l'encontre de son plan pour nous, de ses désirs pour nous, de sa volonté pour nous, la Bible appelle un péché. La Bible enseigne que le péché est premièrement une offense et un affront à Dieu, notre créateur, qui commence dans notre cœur. La Bible ne parle même pas du péché au début, au départ, nécessairement, plus comme juste les actions qu'on commet. Elle ne réduit pas le péché non plus aux actions qu'on commet ou aux choses qu'on dit. Ça commence avec une attitude dans notre cœur, une attitude de rébellion. Les deux premiers commandements donnés à Moïse dans l'Ancien Testament sont d'aimer Dieu avec tout ce que nous sommes et d'aimer notre prochain comme soi-même. On va dire, ouais, mais ça, c'est de l'action, c'est aimer. Oui, l'amour se démontre par l'action, justement. Mais c'est une attitude de cœur, c'est l'état de notre cœur devant Dieu. C'est de considérer Dieu comme étant le plus précieux, comme le plus beau, le plus grand, le plus merveilleux, comme lui qui est seul digne d'être loué et glorifié, n'est-ce pas? Mais nous, on cherche à se définir et à trouver notre identité sans Dieu et à l'extérieur de lui. Et on finit par aimer quelque chose d'autre plus que Dieu lui-même. Pour l'homosexualité qu'on parlait tantôt, par exemple, ça reste encore, selon moi, à être démontré que la pratique de l'homosexualité ne fait pas de mal à personne, humainement parlant. C'est ça qu'on nous dit dans la société. On nous dit « ça fait pas de mal à personne ». Il me semble que le fardeau de la preuve est sur ceux qui disent que ça fait pas de mal à personne. Parce que quand on regarde la nature, comment elle est faite, on voit qu'on n'est pas construit pour pratiquer l'homosexualité. Alors, de dire que ça fait pas de mal à personne, il faut être capable de le démontrer. C'est pas à nous de prouver ça, c'est à ceux qui remettent ça en question. Donc, pour moi, ça reste encore à être démontré que ça fait pas de mal à personne, humainement parlant. Mais qu'en est-il de la personne de Dieu? Dieu, c'est une personne. Qu'en est-il de celui qui nous a créés, puis qui nous a construits d'une certaine manière, puis qui désire que nous puissions le glorifier, la manière à laquelle il nous a créés puis construits? On voit clairement que ce n'est pas juste une question d'orientation sexuelle, homo ou hétéro, mais une question de nos affections les plus profondes. C'est-à-dire que pour régler le problème, ce n'est pas de dire à quelqu'un « deviens hétéro », mais continue à haïr Dieu. Non, le problème, au départ, c'est la haine de Dieu. Le problème, c'est qu'on a rejeté Dieu au départ. Puis toutes les autres déviations dans notre vie découlent de ce problème-là au niveau du cœur. Donc, ce problème de cœur est naturel et universel, et on en est tous conscients. Puis j'aimerais juste faire une petite parenthèse par rapport à l'homosexualité. Souvent, la raison pourquoi j'ai voulu prendre comme exemple le sujet de la pratique de l'homosexualité, c'est parce que je trouve ça tellement évident dans notre société, c'est un message tellement présent, tellement commun que, voyons, tout est correct, ils font pas de mal à personne, c'est juste deux êtres qui s'aiment. Puis je veux juste mentionner que, savez-vous quoi, ce que j'ai dit à propos de l'homosexualité, là, c'est vrai à propos de tous les autres péchés que la Bible nous mentionne. C'est vrai avec le mensonge, c'est vrai avec la jalousie, c'est vrai avec les disputes dans l'Église, c'est vrai avec le jugement que l'on porte sur ceux qui pratiquent l'homosexualité puis qu'on trouve pire que tous les autres péchés. Ça aussi, c'est un péché. Puis le problème de la personne qui juge quelqu'un qui pratique l'homosexuel différemment que quelqu'un qui est un menteur, c'est un problème dans son cœur, qui n'aime pas assez Dieu encore puis qui porte trop de haine pour Dieu dans son cœur puis qui se met au-dessus des autres. Donc, c'est pas du homosexuel bashing que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est pas la raison pourquoi j'ai pris le sujet de l'homosexualité. Vous voyez, c'est la même chose qui se passe avec celui qui pratique ou qui commet l'adultère, un hétérosexuel qui commet l'adultère ou un célibataire qui consomme la pornographie. Ce sont d'autres genres de péchés, de déviations sexuelles aussi, qui sont autant condamnés par Dieu que l'homosexualité. On a un problème de cœur, puis c'est un problème qui est naturel, dans notre nature, et c'est un problème qui est universel, qui touche tout le monde. Et tout le monde en est conscient. Même si tout le monde n'est pas prêt à l'avouer, tout le monde en est conscient. On n'a pas été créé avec ce problème de cœur, mais on l'a tous hérité de nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont péché en se rebellant contre Dieu. On en lit le récit dans le livre de la Genèse. Puis dans Romains chapitre 5, versets 12 et 13, l'apôtre Paul, justement, nous dit que le péché d'Adam nous a été imputé, nous qui sommes de la descendance d'Adam. La Bible enseigne donc que le péché d'Adam, parce qu'il nous a été imputé, fait qu'on vient au monde avec une nature pécheresse. C'est dans notre nature. On a juste qu'à regarder les jeunes enfants jouer ensemble pour s'en rendre compte. Chez nous, on a eu 4 enfants différents, de 2 familles différentes, 2 d'une famille, 2 de l'autre, qui sont venus coucher, qu'on a gardé pendant toute la semaine, en plus de mes 4 enfants. Fait que du lundi au vendredi, on en avait 2 d'une famille, puis hier soir, il y a 2 autres enfants de notre famille qui sont venus coucher chez nous. Puis je vous le dis, là, j'avais ça devant la face toute la semaine. Hein? On n'a pas besoin d'apprendre aux enfants à voler le jouet de l'autre ou apprendre tous les petits soldats ou toutes les petites voitures en métal pour les garder pour soi puis pas en laisser à personne. L'égoïsme, la jalousie, l'orgueil, c'est attaché au cœur des enfants dès leur plus jeune âge. C'est dans notre nature. C'est donc un problème naturel et universel. Mais quand on vieillit, on travaille fort pour se faire à croire que c'est pas naturel. Se faire à croire que c'est la société qui nous a rendus de même, que c'est nos parents qui nous ont appris ça, que c'est ici puis ça. Mais la Bible en dit toute une autre histoire. La Bible dit que parce qu'on est créé à l'image de Dieu, on connaît la loi de Dieu qui discerne entre le bien et le mal. Mais on passe notre temps à tenter de l'éliminer de notre cœur. On passe notre temps à essayer de l'oublier, de l'ignorer, mais sans succès. La Bible dit que personne ne pourra réussir à éteindre complètement la loi de Dieu qui est écrite dans leur cœur, Romains chapitre 2. Car au plus profond de nous-mêmes, on connaît le bien et le mal et on connaît Dieu lui-même. Jean Calvin appelait ça le sens de la divinité. Tous les êtres humains ont le sens de la divinité au plus profond d'eux-mêmes. Ils connaissent Dieu. Ils savent qu'il y a plus que juste ce qui est sur la terre. Soit mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, nous dit Ecclésiaste. Aussi, Romains 1, chapitre 18 et les versets suivants nous explique clairement qu'on est inexcusable. Car ayant connu Dieu, on n'a pas glorifié Dieu comme étant Dieu. Dieu est donc en colère, nous dit ce passage, contre l'humanité et l'injustice de l'humanité. Parce que Dieu a fait connaître à tous les hommes ses perfections invisibles, nous dit le texte, les perfections invisibles que l'on peut voir comme à l'œil nu dans les ouvrages de Dieu. Dieu est en colère quand on garde injustement la vérité captive qu'on connaît sur Dieu et le monde. On connaît la vérité sur Dieu, on connaît la vérité sur le monde, sur le fait que le monde n'a pas pu venir de rien. On peut voir les perfections invisibles de Dieu dans ses ouvrages autour de nous et même en nous-mêmes, mais on passe notre temps à essayer de refouler cette vérité-là, de la garder captive. On tente de l'étouffer, de l'oublier et de l'ignorer, mais sans jamais avoir du succès à le faire. Quelqu'un peut avoir la conscience vraiment endormie et engourdie à force de tenter de la refouler, de l'ignorer puis de l'éteindre. Par contre, notre conscience demeure là. Elle nous accuse et on se sent coupable. Mais on ne sait pas d'où ça vient. La Bible dit que si l'on se sent coupable, c'est parce que l'on est coupable. C'est aussi simple que ça. Faut pas chercher ailleurs, le problème, oui, des fois, le diable peut chercher à nous faire sentir coupables pour des choses desquelles on ne devrait pas se sentir coupable. Mais la Bible dit que par rapport au péché et l'esclavage du péché dans notre vie, nous sommes tous coupables. Le péché est en nous et on est coupable malgré qu'on en ait aussi des esclaves. C'est comme étrange, hein, parce qu'on dit qu'on est esclave du péché. Jésus dit tout celui qui commet le péché est esclave du péché et en même temps, on est coupable du péché. On est coupable de l'avoir choisi et d'en être devenu son esclave. Le péché, ce problème de cœur en nous, nous rend chacun d'entre nous, des hommes et des femmes, injustes, coupables et condamnés devant Dieu. C'est notre état devant Dieu. Romains, chapitre 3, versets 9 et 10, nous dit « Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? » Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs, ça comprend toute l'humanité en passant, parce que tu peux juste soit être juif ou non-juif, d'accord? Nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. La nature de notre esclavage au péché est telle que nous sommes incapables de ne pas obéir au péché. C'est ce que la Bible nous dit. Par nous-mêmes, par nos propres forces, nous ne sommes pas capables de ne pas choisir le péché sans que Dieu nous vienne en aide. Si quelqu'un un jour a été capable de dire non au péché et de ne pas choisir de pécher, c'est parce que Dieu lui a permis et lui a donné la grâce de dire non au péché. Sinon, laissé à nous-mêmes, la Bible dit que nous sommes totalement dépravés et incapables de dire non au péché. Nous en sommes esclaves, nous sommes sous la domination du péché, comme nous dit ce texte. Encore en Romains chapitre 3, versets 19 et 20, on lit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » Donc, dans notre rébellion envers Dieu, on a même le culot de penser qu'on pourra se sortir nous-mêmes du pétrin avec nos propres efforts et notre propre sagesse. Puis on le fait de manière assez sophistiquée. Pourtant, le texte au verset 20 nous dit bien que personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. Personne. Puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. La loi est bonne. Et ce qu'elle fait, la loi, c'est nous montrer qu'on est pécheur puis qu'on n'est pas capable d'obéir parfaitement à cette loi-là. Donc, dans notre rébellion, on cherche de manière sophistiquée à se sauver soi-même, se libérer soi-même, si on veut, de deux manières. Premièrement, on tente de s'en libérer par la religion. On prétend aimer Dieu et faire du mieux qu'on peut pour suivre toutes les règles et penser que cela va nous mériter la libération et la justice de Dieu. Mais c'est une erreur. Ça ne marche pas, la Bible nous dit. Personne ne sera considéré juste devant lui sur les bases des œuvres de la loi. L'autre manière, comme je l'ai dit tantôt, on peut essayer la religion puis se rendre compte que ça ne marche pas, ou même la Bible nous enseigne que ça ne marche pas. L'autre manière, c'est l'irreligion. C'est un rejet total de la religion. Au lieu de prétendre aimer Dieu, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare haïr Dieu et on veut établir notre propre standard de justice par lequel on va prétendre prouver aux autres et à Dieu notre valeur et notre justice. Mais le passage nous dit « Personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. » Que ce soit en essayant la religion ou l'irreligion, par nos efforts, on n'est pas capable d'être déclaré juste. On n'est pas capable d'arriver à un statut de justice. On est injuste, coupable et condamné. On lit aussi dans Romains chapitre 2, verset 12-13, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. » Écoutez ça, là. « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés ou qui seront déclarés justes. » Mais honnêtement, là, aucun d'entre nous n'est capable de mettre en pratique la loi de Dieu parfaitement. Et on n'a aucun espoir de libération, aucun d'entre nous, si c'est en nous qu'on doit chercher la source de cette libération-là. Dans Romains 3, 23, on lit « Tous ont péché ». Ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on est privé de sa présence et incapable d'atteindre son standard de perfection. Et parce que Dieu est un Dieu de justice, un Dieu lui-même juste, en anglais, c'est le mot « righteousness ». C'est pas juste « just », c'est plate en français parce qu'on a le même mot pour dire les deux concepts, mais on parle de la justice de Dieu dans son caractère, ce qu'il est. Il est un Dieu juste. Parce qu'il est ce genre de Dieu-là, un juge juste, Dieu doit nous condamner à passer l'éternité loin de sa présence, loin de sa gloire et loin de sa face. Et c'est ce que la Bible appelle la condamnation éternelle. On trouve ça dur de parler de condamnation éternelle, de jugement, de colère de Dieu, de justice insatisfaible. On ne peut pas la satisfaire. Mais prenez l'exemple de quelqu'un qui viendrait chez vous la nuit, puis qui volerait votre voiture pendant que vous dormez, puis qui part avec, puis c'est l'hiver, dans sa fuite, il va trop vite, il manque un tournant, un virage, il fonce dans une autre voiture, il tue 3 personnes, puis là, il est arrêté, puis amené en cour pour être jugé. Imaginez que le juge ne punisse pas le coupable et le libère de toutes ses accusations, alors que c'est clair, net et précis qu'il est coupable, qu'il devrait être jugé. On crierait à l'injustice si un tel juge humain agirait de la sorte. Pour que justice soit rendue, on voudra que le voleur soit emprisonné, même qu'il dédommage pour la perte de la voiture ou qu'il fasse un dédommagement quelconque pour avoir justement tué des gens. Mais ça nous serait absolument intolérable. Ça vient violer tous nos sentiments profonds de justice qu'un juge agirait, si un juge agissait comme ça. Mais voyez, dans notre cas, nous les êtres humains, notre rébellion est l'équivalent d'une trahison cosmique envers le Créateur de tout ce qui existe. Nous avons contracté une dette tellement grande envers Dieu par notre péché qu'elle est impossible à rembourser. notre offense envers Dieu est si grande. Et la raison pourquoi elle est si grande, c'est à cause de la grandeur de celui que nous avons offensé. Le Créateur de l'univers, à qui nous devons tout. Dieu est donc devant un dilemme. Il nous a créés pour le glorifier et il nous aime et il veut nous voir le glorifier. Par contre, en tant que juste juge, il ne peut pas laisser le pécheur impuni. Il doit nous condamner, sinon lui-même va être condamné et accusé d'injustice. Vous voyez le dilemme dans lequel Dieu se trouve? S'il ne juge pas le péché, s'il ne nous condamne pas, lui-même va commencer à être accusé et condamné d'être injuste. C'est lui maintenant qui va devenir injuste s'il ne passe pas à l'action et ne nous condamne pas dans sa justice. Donc, quelle est la solution à ce dilemme? La solution est dans les versets 21 à 26 de Romains chapitre 3, là où l'on voit le seul libérateur possible et la seule libération possible qui pouvait vraiment nous libérer de toute notre culpabilité. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ces versets-là. Romains chapitre 3, versets 21 à 26. On lit au verset 21, « Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. » Est-ce que ce n'est pas merveilleux de lire ces paroles? La libération, frères et sœurs, se trouve réellement en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. La bonne nouvelle est que c'est possible d'être libéré de la culpabilité du péché. La justice de Dieu est accessible, mais pas par notre performance humaine, nous dit la Bible. La justice de Dieu a été manifestée par Dieu, par la foi en Jésus-Christ, nous dit ce texte, pour tous ceux qui croient. Oui, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais le texte continue en disant qu'ils sont aussi gratuitement justifiés ou déclarés justes par sa grâce. Dieu est à la fois le juge qui doit nous condamner pour une offense que nous lui avons causée, sinon il serait injuste. Mais dans sa grâce et son amour pour nous, Dieu devient en Jésus-Christ notre libérateur en prenant sur lui notre châtiment, notre condamnation, notre culpabilité, nos fautes et notre péché. Le péché d'Adam, oui, nous avait été imputé. Mais à la croix où Jésus est mort pour chacun d'entre nous et par amour pour nous, notre péché a été imputé sur Jésus. La Bible dit qu'il est devenu péché pour nous. Et à la croix, pour ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, dans son sacrifice et sa résurrection, la Bible nous dit que la justice de Dieu leur est imputée. Il y a ce transfert qui se produit. Il y a comme trois imputations. L'imputation du péché d'Adam sur toute la race humaine, l'imputation de notre péché sur Jésus et l'imputation de la justice de Dieu sur nous lorsque nous croyons, lorsque nous plaçons notre foi dans le sacrifice et la résurrection du Seigneur. Cet échange entre notre péché et la justice de Dieu est disponible à tous ceux qui croient en son sacrifice, à tous ceux qui ont soif d'être libérés de l'esclavage le plus profond de l'humanité et à tous ceux qui font appel à lui pour être libérés. Tu peux aujourd'hui, la Bible dit, être libéré de la culpabilité du péché. Qu'est-ce qui va te libérer de ça? Toutes les choses que tu poursuis dans ce monde pour apaiser ta conscience, toutes les choses que tu poursuis sans te rendre compte que tu les poursuis parce que tu ne sais pas comment dealer avec le problème, gérer le problème de culpabilité dans ton cœur, qu'est-ce qui va vraiment le régler, le problème du pardon du péché, de ton péché? La Bible dit que tu peux en être libéré et dire avec l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » On peut faire des films sur la liberté, comme on l'a mentionné au début. On peut la crier en faisant une révolution, même faire des manifestations. On peut écrire des dissertations, chanter une chanson, faire de l'humour. Mais si on ne devient pas affranchi de l'esclavage de fond, qui est l'esclavage au péché, notre problème de fond n'aura jamais vraiment été réglé. Puis toutes ces autres libertés-là deviennent fades comparées à la vraie liberté pour laquelle on a été créé. Si tu ne connais pas Jésus ce matin comme ton libérateur, ce dont tu as vraiment besoin est d'être libéré de la culpabilité du péché. Et tu peux faire appel à Jésus pour t'en être libéré. Mais si tu connais déjà Jésus comme ton libérateur, ce dont tu as besoin est de comprendre encore plus profondément à quel point Jésus t'a aimé afin que tu sois libéré de la culpabilité du péché. Il a pris ta place à la croix afin que Dieu puisse demeurer juste et que toi, tu ne sois pas condamné. Il a subi la colère du Père afin que toi, tu ne sois pas obligé de la subir. Je t'invite donc à faire cette prière d'Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21, à chaque jour des prochains 21 jours de libération 21. C'est une prière vraiment, vraiment bien. Quand on pense à libération 21, quand on pense à notre besoin d'être libéré de la culpabilité du péché, et quand on pense aux besoins de ceux qui nous entourent d'être libérés de la culpabilité du péché, nous pouvons faire cette prière dans Éphésiens chapitre 3, verset 14-21, où l'apôtre Paul demande à Dieu que les croyants soient enracinés et fondés dans l'amour, qu'ils puissent comprendre la largeur, la hauteur, la profondeur, la longueur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte qu'ils en soient remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc, je te mets au défi cette semaine. On a parlé de la libération, de la culpabilité du péché, de notre péché, et je vous invite donc à, pour mieux comprendre l'amour que Jésus a eu en nous libérant de la culpabilité du péché, de faire cette prière-là, étant donné que c'est Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, je vous mets au défi, à chaque jour de Libération 21, à 3h13, de vous mettre une alarme dans l'après-midi. Ça peut être aussi 3h13 le matin, pour ceux qui sont vraiment braves. Mais moi, je vais mettre une alarme à 3h13 dans l'après-midi. Et à partir de 3h14 jusqu'à 3h21, pendant ces 7 minutes-là, je vais ouvrir la Bible en Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, et je vais lire cette prière et je vais prier cette prière-là avec l'apôtre Paul et avec chacun d'entre vous qui allez le faire avec moi. Dans les semaines qui vont suivre de Libération 21, on va voir qu'on va développer davantage sur le concept de libération. Aujourd'hui, on a traité la question de la culpabilité de notre péché, mais on va voir que la libération est non seulement déjà... dans notre libération, non seulement on a déjà été libéré de la culpabilité du péché, mais pas encore complètement. Et on va voir ça la semaine prochaine, parce qu'on vit encore des luttes avec le péché. Et on vit encore avec la culpabilité au quotidien. Si vous êtes comme moi, vous vivez aussi cette culpabilité-là au quotidien quand vous faites une erreur, quand vous tombez. Et la semaine prochaine, on va voir que oui, nous avons été libérés de la culpabilité du péché, mais Dieu travaille présentement à nous libérer du pouvoir du péché afin de nous donner la victoire de jour en jour. Et dans trois semaines, dans deux dimanches, on va voir qu'un jour, Dieu va nous libérer complètement de la présence du péché. Et quel grand jour ce sera, n'est-ce pas? On peut prier ensemble. Merci Seigneur pour cette campagne de Libération 21. Merci pour le temps que tu nous as donné ce matin d'examiner, puis vraiment Seigneur, de plonger dans ta parole afin de voir quel grand Dieu tu es. Le Dieu libérateur, le Dieu qui est venu nous chercher dans notre esclavage alors qu'on ne voulait même pas rien savoir de toi. Tu es venu nous chercher par amour, tu es venu nous chercher par grâce, et tu nous as libérés de l'esclavage du péché, et tu nous as libérés de la culpabilité de notre péché. Merci Seigneur. Fais grandir en nous cet émerveillement face à ta libération et ces actions de grâce face à tout ce que nous pouvons comprendre, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. Amen.
Vous savez, David...